une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'à 39. Jean, chapitre 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous allons à présent écouter la parole de la prédication. Mais avant cela, je vais procéder à la présentation des candidats au baptême. Et je vais les appeler par leur prénom et puis ils pourront se lever pour que vous puissiez les voir. Je vais commencer justement par Eva. Voilà. Il y a Tina. Michel. Emmanuel. Louise. Rita. Voilà, il se cachait. Voilà, c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. En tout cas, je vous assure que le ciel est dans la joie.
Amen. Alléluia.
La terre aussi.
Amen. Amen.
Alors, je vous propose pour la prédication de ce matin un passage tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et effectivement, il est question du baptême. Romains 6, 3 à 7. Alors, en tout cas, pour ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, je vous invite à vous lever pour honorer, une façon d'honorer la parole de Dieu. Ceux qui le peuvent. Lisons au nom du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché.
Amen.
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 Je vous invite, s'il vous plaît, à vous asseoir dans sa sainte présence. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande journée en réalité, une belle journée et une journée très importante. Aujourd'hui, voyez, il va y avoir lieu un tournant décisif, en tout cas dans la vie des candidats au baptême. Leur vie en tout cas, ne sera plus jamais la même. Vous savez que les Juifs de l'époque de Jésus, justement, étaient eux aussi, vous voyez, prêts à confesser, en quelque sorte, leur péché. La Bible nous enseigne que ces Juifs-là qui étaient prêts à confesser leur péché allaient vers celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Ils allaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser de ce qu'on appelle du baptême de la repentance. Jésus aussi, justement, en voulant s'identifier aux Juifs qui, eux aussi, se repentaient, Jésus qui voulait s'identifier à eux, est allé aussi vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il nous enseigne la parole de Dieu. Mais il ne s'est fait pas baptiser parce qu'il avait des péchés. Jésus était sans péché, mais il a dit lui-même qu'il voulait se faire baptiser afin d'accomplir toute justice. Afin d'accomplir tout ce qui est juste devant Dieu le Père. Et à partir de là, je tire un principe important du baptême, c'est que le Seigneur Jésus reconnaissait qu'il y avait au milieu justement du peuple d'Israël, du peuple juif, des gens justement qui se repentaient. La Bible appelle ces gens-là un reste repentant qui se distinguait par leur baptême. Et Jésus, en se faisant baptiser, s'est identifié aussi à ce reste-là. Ce principe est que, frères et sœurs, le baptême change la position. Le baptême change la position du baptisé sur la terre. La position. Par le baptême de Jean, vous voyez que ce reste pieux était mis à part. Mis à part, alors que le peuple juif, le peuple d'Israël dans son ensemble, vaquait à leurs occupations. En tout cas, ce peuple poursuivait leur chemin dans l'incrédulité. Mais là, au milieu d'eux, il y avait un peuple qui était mis à part et qui avait pris ce qu'on a lu, cet engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Et ces mis à part, ce résidu, justement, attendaient le Messie et confessaient leurs péchés. En quelque sorte, ils se condamnaient eux-mêmes et se purifiaient de leur état de péché dans lequel ils se trouvaient. En étant baptisés du baptême de Jean, ils justifiaient Dieu. Ils justifiaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient publiquement justement que le jugement de Dieu à leur égard était juste. Juste. Nous dit Luc chapitre 7, verset 29. Ils étaient donc prêts à recevoir le Messie qui allait venir. Mais le Messie était déjà là, justement. Un deuxième principe essentiel du baptême ressort aussi du baptême de Jean, c'est que le fait d'être baptisé est lié... Deuxième principe, c'est que le fait d'être disciple est lié au fait d'être baptisé. Le fait d'être disciple est lié au baptême, en quelque sorte. Celui qui se fait baptiser pour quelqu'un devient son disciple. Oui, par le baptême pour Jésus, on devient disciple de Jésus. Autrement dit, on reçoit la marque du fait d'être disciple. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 1 et 2, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. C'est-à-dire que les pharisiens se sont rendus compte que ce qu'on appelle Jésus là, il fait et il baptise finalement plus que Jean-Baptiste qui l'a précédé, qui avait commencé lui à baptiser. Vous voyez ? Il faisait et il baptisait. Et la suite nous dit... Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Ceux qui se faisaient baptiser devenaient à leur tour des disciples. Le baptême, ensuite nous dit l'apôtre Paul, est pour la mort. et pour la mort. Romains 6, verset 3. L'eau du baptême est le symbole. Le symbole de la mort. Jésus, en se faisant baptiser, en tout cas, il montrait aussi le chemin, que ça commence là, mais que ça finirait à la croix. L'eau du baptême est un symbole de la mort comme châtiment, comme punition des péchés commis. Celui qu'on baptise entre symboliquement dans la mort. Le baptême de Jean était pareillement un baptême pour la mort. Ils confessaient leurs péchés, comme on a dit, et reconnaissaient avoir mérité la mort comme punition pour eux. C'était la même chose dans le baptême chrétien, mais avec une grande nuance, une grande différence. Le baptême chrétien est pour la mort de Christ. La mort de Christ. Le baptême de Jean, voyez, était aussi pour la mort de Christ, mais Christ n'était pas encore mort. Donc c'était un baptême qui était administré dans l'espérance de celui qui devait venir et mourir pour le pardon de leurs péchés. Mais ce n'était pas encore une bénédiction présente. Mais après la mort de Christ, en tout cas, ceux qui sont convaincus de péché sont amenés à reconnaître devant Dieu leur place dans la mort. Et parce qu'ils ont appris que Christ a été dans la mort avant eux, mais pour eux. C'est la différence avec le baptême de Jean. Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il s'agit, frères et sœurs, d'une signification fondamentale et essentielle du baptême chrétien. En entrant dans l'eau du baptême, vous reconnaissez avoir mérité le châtiment de la mort. En même temps, vous confessez avec un grand bonheur, justement, qu'un autre, c'est-à-dire Christ, a été dans la mort, justement, pour vous. Il a enduré la mort comme salaire du péché. Et dans le baptême, vous vous identifiez ou vous vous unissez, justement, avec lui, avec un Christ mort. Vous êtes baptisé pour sa mort, vous avez part à sa mort, vous êtes enseveli avec lui par le baptême pour la mort. Vous êtes, en tout cas, littéralement réuni étroitement avec lui comme étant mort. Et donc, vous êtes devenu, dit l'apôtre Paul, une même plante. Une même plante. En tout cas, le symbole, il est très fort. Une même plante. Ce faisant, l'apôtre Paul ajoute qu'il est impossible, en tout cas dans ce passage, peut-être un peu plus loin, qu'il est impossible à celui qui a été baptisé de vivre encore dans le péché, de mener encore une vie de péché. Une telle manière de vivre, en tout cas, lui est interdite. Tant dans notre position en Christ, position, Romains chapitre 6, verset 2, nous le dit, nous qui sommes morts au péché. Voilà notre position. Donc, tant par notre position que par notre confession chrétienne, Romains 6, 3 ajoute, nous avons été baptisés en sa mort. Frères et sœurs, le baptême chrétien parle de mort, mais pas seulement de mort. Christ n'est pas resté dans la mort. Il a été ressuscité par la gloire du Père. Le chrétien non plus ne reste pas dans l'eau de la mort, il en ressort pour vivre désormais, nous dit la Bible, en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Une sorte de vie, mais vraiment tout à fait nouvelle. C'est une naissance, mais cela va déjà au-delà de l'enseignement d'ailleurs du baptême. C'est plutôt une conclusion, en quelque sorte, tirée par le Saint-Esprit pour notre vie pratique et que nous perdons de vue trop facilement. Le croyant, par son union avec Christ qui est la tête, le croyant par son union avec Christ, a la même position que Christ a, soit dans sa mort, soit dans la résurrection. La même position. Christ est mort au péché comme nous sommes en Christ. Nous n'avons plus rien à voir avec le péché. Nous sommes morts au péché. mort au péché. Si le péché se présente devant toi, tu dois te comporter devant lui comme un cadavre. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Mort au péché. Oui, le péché définit l'état dans lequel nous étions avant notre conversion. Par la mort, nous avons quitté cet état. Une fois pour toutes, telle est notre position en Christ maintenant. Telle est la position de tout enfant de Dieu, en tout cas celui qui est passé ou qui passe par les eaux du baptême. Notre baptême montre la même pensée fondamentale. En nous faisant baptiser, nous confessons publiquement avoir part à la mort de Christ. Nous sommes baptisés pour sa mort. Sa mort est notre mort, c'est notre position et c'est ce que nous confessons. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous sont peut-être déjà passés par les eaux du baptême, depuis peut-être des années, mais combien peu nombreux sont ceux qui pensent encore aujourd'hui à ce qu'ils ont confessé lors de leur baptême. Combien nous sommes souvent peu conscients de la responsabilité liée à cet acte du baptême. Oui, la responsabilité de nous tenir pour mort au péché maintenant, chaque jour, dans la vie quotidienne, pour que, dit l'apôtre Paul, nous ne soyons plus des esclaves du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la suite de ce chapitre, l'apôtre Paul dit, mais attention. Attention, ce n'est pas le péché en nous qui est mort. Non, ce n'est pas le péché en nous qui est mort, mais c'est nous qui sommes morts, ou c'est nous qui devons nous tenir comme pour morts devant le péché. Vous voyez que c'est entièrement une question de foi. Une conclusion que la foi tire de notre position que Dieu nous confère à travers le baptême. Que Dieu nous aide à rendre visible dans notre vie quotidienne ce que nous avons accompli, ce que nous avons compris, pardon, de notre position en Christ et ce que nous avons aussi exprimé comme confession lors de notre baptême. Quand on pense à ce que le baptême représente, on peut alors vraiment dire que c'est une belle image. C'est une belle image de l'Évangile. Autrement dit, le baptême, par ce qu'il représente, nous montre de quelle manière l'homme est sauvé. De quelle manière l'homme est sauvé. Si quelqu'un entre avec foi, dans ce que le baptême signifie, préfigure, la Bible nous dit que cela conduit au salut, un salut irrévocable. Parce que le baptême change complètement notre position sur la terre. Le baptême marque un changement de position, comme nous l'avons déjà dit, à propos du baptême du Jean. Il en va de même, en tout cas, du baptême chrétien. Mais ne perdons jamais de vue qu'il s'agit, voyez, d'une position ici sur la terre. Ici sur la terre. Le baptême n'a absolument rien à voir avec notre position dans le ciel. Parce que le baptême fait quoi? Le baptême nous met à part, mais ici sur la terre. Le baptême nous met à part afin que nous puissions adresser un message au monde, à ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, que nous sommes des mis à part. L'apôtre Paul dit, nous sommes devenus une même plante avec Christ. C'est une position ici, vraiment sur la terre. Et ne perdons jamais de vue cette situation que le baptême a à voir avec notre position ici sur la terre. Soulignons que se faire baptiser aussi n'est pas un devoir. Il ne s'agit pas d'un devoir, ce n'est pas une obligation pénible, je veux dire, mais vous voyez, à travers la Bible, c'est un privilège précieux devant Dieu. Un privilège précieux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Demandez fort justement l'eunuque éthiopien devenu croyant. Acte 8, verset 36. Quelqu'un pourra-t-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés? Demande Pierre dans Acte 10, 47. Il ne s'agit pas tant d'un commandement de se faire baptiser, mais plutôt d'un commandement de baptiser. Voilà pourquoi Jésus il dira plus tard dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations. » Il donne un commandement à ses disciples. Il ne donne pas un commandement aux futurs candidats, « Faites-vous baptiser. » Il dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans Actes 10, 48 aussi, c'est cette démarche que Pierre va avoir. Mais la soumission à l'institution du baptême établie par le Seigneur est évidemment aussi de l'obéissance. C'est lui qui nous demande à travers sa parole de passer par les eaux du baptême, comme lui nous en a montré l'exemple. Et nous devons nous soumettre à sa parole. Cependant, l'obéissance à Dieu, frères et sœurs, je l'ai toujours dit, s'appuie toujours sur la foi. L'obéissance à la parole s'appuie toujours sur la foi. Les deux vont ensemble, comme pour notre père Abraham. La foi pousse à l'obéissance et l'obéissance démontre l'existence de la foi. Tu me donnes un enfant, j'ai 100 piges et tu me dis de le sacrifier. Bon, je fais quoi? J'ai la foi et cette foi doit se manifester par l'obéissance. J'obéis. Alors que tu m'as promis un héritage, une descendance, mais tu me dis de sacrifier cet unique enfant. Si j'ai la foi, l'obéissance doit suivre. Donc les deux vont toujours de pair. Il s'agit là, bien aimé, foi, obéissance, de nos deux piliers dans notre marche chrétienne. Et il s'agit là aussi de l'image de la croix et du Saint-Esprit. La croix et le Saint-Esprit. La foi en l'œuvre de la croix et l'obéissance au Saint-Esprit qui nous a été donné. Il s'agit de la relation qu'il y a entre la croix et son application par le Saint-Esprit. Je l'ai dit aussi dimanche dernier, c'est la croix qui accomplit tout, mais c'est le Saint-Esprit qui administre à l'homme ce que la croix a accompli. La croix nous donne, autrement dit, la croix nous confère une position. Et c'est au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'expérience de la position. Oui, et cela se passe à travers la confession. Il faut confesser, oui. La croix fait intervenir le fait de Dieu et le Saint-Esprit nous apporte la démonstration de ce fait. L'œuvre de la croix crée une position et consomme un salut capable de sauver les pécheurs. Et la tâche du Saint-Esprit est de révéler aux pécheurs ce que la croix a réellement réalisé. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi, voyez dans la Bible, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, cet Esprit que Christ nous a donné, c'est 1 Pierre aussi, au chapitre 1, versets 11 à 12, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, il est question de comprendre que dans la vie chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une dimension de souffrance. Et là, je veux m'adresser particulièrement aux nouveaux candidats, en tout cas, et aussi à nous tous, qu'il y a une dimension de souffrance, de difficulté et de problème. Avec Dieu, voyez, la gloire est toujours associée à la souffrance avec Dieu. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas une souffrance gratuite, voyez, mais que c'est une souffrance qui finit par amener la joie, la gloire, dit la Bible. Jésus n'a jamais promis à quelqu'un qu'il allait devenir grand, qu'il allait être prospère, qu'il allait être extraordinaire dans ce monde. Non, Jésus n'est pas venu pour des choses, en quelque sorte. Il est venu pour le ciel. Ça, c'est sûr et certain. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas simplement le Saint-Esprit, parce que dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est appelé sous plusieurs désignations. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, le souffle de gloire, l'Esprit de Christ, etc. 1 Pierre 1, chapitre 11, 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Souffrance et gloire. Voyez que ce verset-là nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, mais quelle est la particularité ici même de l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ nous atteste d'avance, nous annonce d'avance les souffrances de Christ. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, il y a une dimension de souffrance qu'il ne faut jamais oublier. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde va vous haïr. Lorsqu'on parle de l'esprit d'une personne, vous voyez, ce sont les dispositions intérieures de la personne. Sa manière de parler, sa manière de penser, sa vision, son système, sa mentalité, sa façon à elle d'aborder la vie. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais en quelque sorte qui n'ont pas l'Esprit de Christ, qui n'acceptent pas le côté souffrance à endurer dans ce monde pour Christ. L'Esprit de Christ est une variante, une dimension. C'est un volet du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, justement, a plusieurs volets. L'Esprit de Christ, non seulement il atteste les souffrances de Christ, mais aussi la gloire de Christ. Donc, ce n'est pas une souffrance gratuite. Vous serez amené à souffrir pour Christ dans ce monde, mais ce n'est pas une souffrance gratuite. C'est une souffrance qui précède toujours la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, il est question de comprendre que dans la vie chrétienne, il y a une dimension de souffrance, de difficulté et de problème. En 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2, il est question de souffrir dans la chair. Avec Dieu, frères et sœurs, la gloire est toujours associée à la souffrance. La souffrance est en quelque sorte la chambre d'attente de la gloire. Dans Jean chapitre 17, qui est une prière que Jésus adresse à son Père, Jésus dit à son Père, « J'ai accompli la tâche que tu m'as demandé d'accomplir. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais lorsque j'étais au ciel. » Oui, il termine son œuvre et il dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais assignée. » Autrement dit, « J'ai accompli ma feuille de route et maintenant, c'est-à-dire en conséquence, accorde-moi la gloire. » Il n'est pas encore passé par la croix, mais il sait qu'il va souffrir. Il sait qu'il va passer par les souffrances. Il dit, accorde-moi la gloire. Oui, Dieu n'accorde pas sa gloire à une personne qui n'a pas accompli sa feuille de route. Jésus dit que la gloire que Dieu donne à un homme est la conséquence. La conséquence de la gloire, en fait, que l'homme aussi a donnée à Dieu. Jésus a glorifié Dieu et il demande à Dieu à son tour de le glorifier. Nos vies doivent glorifier Dieu dans la joie comme dans la souffrance, afin que Dieu aussi nous glorifie. Dieu élève ceux qui travaillent pour son royaume. L'Esprit de Christ est associé à la souffrance. C'est une souffrance qui amène à la gloire. Ce n'est pas une souffrance qui est sans résultat. C'est une souffrance qui ressemble à un investissement. Vous faites un placement parce qu'elle produit un poids extraordinaire de gloire, cette souffrance. Chers candidats, chères candidates, armez-vous de cette idée que vous allez souffrir pour le Seigneur. Mais n'oubliez jamais qu'il y a derrière un poids de gloire. Oui, un poids de gloire. Quand tu es décidé de donner ta vie à Jésus, il faut faire attention parce que, voyez, avant d'entrer à Canaan, il faut mener une bataille. Avant d'entrer à Canaan. Mais c'est le pays où coule le lait et le miel. En quelque sorte, avant de goûter au miel, les abeilles vont te piquer. Les abeilles vont te piquer. Demandez à Samson. Les abeilles vont te piquer, oui. Pour y accéder, tu dois affronter les abeilles. Frères et sœurs, Jésus, avant de porter la couronne de gloire, comme nous dit la Bible, mais il a d'abord porté la couronne d'épines.
Il a d'abord
souffert. Il a porté la couronne d'épines. Bien-aimé, la Bible dit que il y aura beaucoup de tribulations dans les derniers temps. Les tribulations. Les chrétiens vont devoir affronter beaucoup d'opposition dans ce monde. Vous voyez, le mot tribulation, en grec, c'est clipsis, mais ce mot signifie pression mentale. C'est-à-dire que vous allez subir des pressions dans votre mental même en marchant dans ce monde. Mais armez-vous à l'idée que Christ a vaincu le monde. Armez-vous de cette idée que Christ est sorti vainqueur de ce monde. Oui, bien aimé. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 33, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Qui ? Donc, il y a des situations qui vont nous amener à douter de l'amour de Dieu. Qui nous sépare ? Des situations vont se présenter et qui vont nous pousser à dire, mais si Dieu existe, mais pourquoi il permet ci dans ma vie ? Pourquoi il permet ça ? Pourquoi il permet ci ? Oui. La souffrance va venir te challenger pour te permettre cependant d'avancer, de te rendre meilleur. Voilà l'objet des souffrances. Dieu se sert des problèmes pour te rendre meilleur, pour t'améliorer. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, suis-moi et tu seras riche. Mais il a plutôt dit à un riche d'ailleurs, va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Le riche a réfléchi plusieurs fois et il n'a pas pu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jésus nous promet, c'est le ciel. Mais aussi, il faut le dire qu'il nous promet aussi un bonheur sur cette terre. La Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Notre vie se passe d'abord dans le domaine spirituel avant de toucher au domaine matériel. Et nous devons être conscients d'abord des réalités spirituelles où Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il règne. Je vous assure que si nous tenons bon, nous allons régner avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et je suis sûr que nous tiendrons bon jusqu'au bout. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.
Je vous invite à un temps de recueillement. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, garde-nous de toujours te glorifier dans ce monde. Accorde-nous la force surnaturelle, spirituelle, pour pouvoir marcher chaque jour en nouveauté de vie dans ce monde. Et ce dont nous avons le plus besoin, c'est de ta présence dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est uni avec Christ est avec lui un seul esprit. Et il dit plus loin, Galates 5, 22, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, la Bible nous déclare aussi que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ce monde soupire et veut voir que ceux-là qui ont confessé Christ, qui sont passés par les eaux du baptême, nous montrent ce à quoi Dieu ressemble. Et c'est à nous, justement, de montrer à ce monde le Dieu vivant et vrai. Seigneur, aide-nous, parce qu'il n'y a que toi qui sois capable de vivre véritablement cette vie chrétienne. Voilà pourquoi tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons tellement besoin de toi. Nous te disons merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Que personne ne vienne voler cette parole que nous avons reçue. Et que nous puissions chaque jour la mettre en pratique afin de vivre pour la gloire de ton nom. Bénis chacun d'entre nous dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.
Amen.